Troisième partie. L'homme qui disparaît. 1996. Shakespeare in the Park. L'expérience, ce n'est pas ce qui arrive à un homme. C'est ce qu'un homme fait avec ce qui lui arrive. Aldous Huxley. Zéro. Une atmosphère poisseuse et suffocante. Des relents écœurants de cuisson, de friture et de lave-vaisselle. Je suis torse nu, couché sur un sol tiédasse, dans un endroit baigné de lumière. Je sens la sueur qui coule dans mon cou et sous mes aisselles. À cause de la luminosité, j'ai les yeux qui pleurent, comme si quelqu'un éminçait des oignons à quelques centimètres de moi. D'un geste de la main, je chasse les mouches, qui volettent autour de mon visage. Je commence à connaître le refrain. Les paupières gonflées, le corps ankylosé et perclus de courbatures, la migraine qui me vrille le crâne, les bourdonnements, l'impression désagréable d'avoir les jambes sciées. J'ouvre les yeux et cherche mes appuis sur le carrelage graisseux. Une fois debout, une odeur de chou rance me prend à la gorge. Je suis seul, dans une grande pièce rectangulaire écrasée par un soleil de plomb. 1. De l'avant-bras, j'essuyais la sueur qui perlait sur mon visage. Autour de moi, des plaques de cuisson, un évier gigantesque à 6 bacs, un comptoir de découpe, une friteuse géante, des marmites de 100 litres, une succession de fours électriques, une rôtissoire, un convoyeur. Contre les murs, des armoires en inox. Au plafond, d'énormes hottes aspirantes. Visiblement, j'étais dans une cuisine centrale. Une sorte de cuisine collective comme celle que l'on trouvait dans les cantines, dans les usines, dans les restaurants d'entreprise. Qu'est-ce que je fous là, bordel ? Posé sur une étagère, un réveil démodé en bakélite indiquait 1 heure de l'après-midi. Je me traînais jusqu'à la première fenêtre, l'ouvris pour faire entrer un peu d'air frais et regardais le paysage. Une chose était certaine. Cette fois, je n'étais pas à Manhattan. À perte de vue, je ne voyais que des hangars, des entrepôts, des cheminées d'usines. J'étais au beau milieu d'une zone industrielle, ceinturée au loin par une autoroute et par un cours d'eau. J'ouvris la deuxième fenêtre sur le mur opposé. Enfin, je distinguais la ligne de gratte-ciel de Manhattan. En plissant les yeux, je devinais la silhouette de l'Empire State, la flèche du Chrysler, la structure métallique du Queensboro Bridge. Je réfléchis un instant. À présent, je pensais savoir où j'étais. Dans le sud du Bronx. Sans doute sur la péninsule de Hunts Point, là où étaient situés tous les marchés de gros de New York, fruits, légumes, viande. Je fis volte-face et me dirigeai vers l'unique sortie de la pièce. Une porte coupe-feu en acier zingué qui se trouvait être verrouillée. « Eh oh ! Y a quelqu'un ?» Pas de réponse. Je cherchais un extincteur pour m'en servir comme d'un bélier, mais n'en trouvais aucun. « Pull in case of fire ». L'inscription sur l'alarme à incendie me donna une idée. J'abaissai le déclencheur manuel, mais rien ne se passa. Ni sirène, ni voyant lumineux. Dépité, je retournai vers les fenêtres. J'étais à environ 20 mètres au-dessus du vide. Impossible d'espérer sortir par là sans me rompre le cou. Malgré le courant d'air, une chaleur de fournaise persistait dans la pièce. Tandis que dehors, l'air pollué charriait une forte odeur d'engrais chimique. À l'ouest de la Bronx River, des terrains clôturés et des quais de chargement s'étendaient sur des kilomètres. Quelques poids lourds et des semi-remorques allaient et venaient autour de la bretelle autoroutière, mais la zone ne débordait pas d'activité. Autour de moi, je ne voyais que des parkings déserts et des fenêtres d'immeubles vides. J'étais prêt à parier que nous étions le week-end. La guigne.
« Eh oh ! Eh oh ! »
hurlai-je à tue-tête. Peine perdue. Je comprenais peu à peu que, de là où je me trouvais, personne ne pouvait ni me voir ni m'entendre. Je déambulais dans la pièce à la recherche d'une idée. Sur le mur était punaisé un calendrier de pin-up. Vêtue d'un simple monokini, Miss Août 1996 était une belle brune voluptueuse aux tétons pointus. Accoudée à un bar de plage, elle dégustait un cocktail dans un ananas évidé. Je ne fus pas long à faire le calcul. Si nous étions au milieu de l'été, j'avais réalisé cette fois un saut de plus de 9 mois. Je fis un rapide inventaire des autres meubles de la pièce. Des rayonnages à plateau, des chariots de manutention, une grande armoire en inox, semblable à un casier de vestiaire, protégé par une serrure à combinaison. Pendant l'heure qui suivit, j'essayais de trouver une solution pour sortir de cette prison. Je démontais les faux plafonds, les raccords d'évacuation, je sondais le tuyau de ventilation du vide-ordure, je tentais de fracturer la porte métallique avec une écumoire à friture et une pince à spaghetti. Sans succès. À force de me démener, j'avais la gorge sèche. Dans l'un des frigos, je dégotais une canette de soda infâme, aromatisée au chewing-gum, et une part de cheesecake douteux. Je le reniflais avec méfiance, mais j'avais tellement faim que je n'étais pas en état de faire le difficile. Il y avait un vieux poste de télévision accroché au plafond dans un coin de la salle. Je trouvais la télécommande posée sur une desserte réfrigérée et allumai l'appareil. Des extraits d'images sportives défilèrent sur l'écran, de l'athlétisme, de la natation et du tennis. Je reconnus distraitement Carl Lewis, Michael Johnson et André Agassi. Je regardai la fin du reportage en mangeant mon gâteau, puis un commentateur apparut, casque sur les oreilles et micro à la main.
Ainsi s'achève notre rétrospective de ces 26e Jeux Olympiques d'été qui se sont déroulés ici, à Atlanta, du 19 juillet au 4 août. Des Jeux qui se termineront en apothéose avec la cérémonie de clôture retransmise ce soir sur NBC en direct du stade du Centenaire.
La date me fit sursauter. Donc nous étions le 4 août 1996, le jour de mon anniversaire, le jour de mes 30 ans. 5 ans s'étaient écoulés depuis ce matin de juin 1991. Ce matin où mon père avait débarqué chez moi pour me gratifier de cet héritage empoisonné que représentait le phare des 24 vents. 5 ans qui avaient passé en 5 jours. J'observais mon reflet dans le petit miroir pendu au-dessus d'un lavabo d'appoint. C'était la première fois que je me regardais dans une glace depuis le début de ce cauchemar. J'avais un peu vieilli. Mon visage était marqué par la fatigue. Mon teint brouillé. J'avais les pupilles dilatées et des poches sous les yeux, comme si j'étais sorti faire la fête toute la nuit. Pour l'instant, j'étais épargné par les rides et j'avais encore une belle gueule. Mais mes traits s'étaient durcis et creusés. Mes yeux étaient plus sombres. Mes cheveux avaient perdu leur reflet doré. Ce qui me frappait le plus, c'était la disparition sur ma figure de toutes les traces d'adolescence. Envolée toute candeur, toute rondeur, toute espièglerie. Bon anniversaire, Arthur. 2. 15h, 16h, 17h, minuit, 1h du matin, 2h, 3h, 4h. Exaspéré et fatigué, je tournais comme un lion en cage. J'avais tout essayé pour me libérer de cette geôle. Comme j'avais compris que je ne pourrais jamais ouvrir la porte coupe-feu, je m'étais rabattu sur l'armoire métallique que j'avais renversée sur le sol. En jouant sur les 5 molettes, j'avais entré une bonne centaine de combinaisons, mais les possibilités se comptaient en milliers, et le code de la fermeture de sécurité tenait bon. De guerre lasse, j'avais tenté de faire sauter la serrure en utilisant tous les ustensiles que j'avais sous la main. Une spatule coudée, une pelle à frites, un affiloir en acier.
Et merde !
En hurlant, je balançais ma spatule à l'autre bout de la pièce. Et ivre de rage, je me mis à marteler la paroi métallique avec mes poings. Je vivais un cauchemar dans le cauchemar. Comment accepter que les seules 24 heures qui m'étaient accordées se résument cette année à rester prisonnier de cette putain de tôle ? Soudain, j'éclatais en sanglots. Des pleurs que je n'avais pas vu venir, qui traduisaient une souffrance que je ne pouvais plus endurer. Je me sentais horriblement seul. La peur me noyait. La malédiction du phare était en train de me broyer. J'avais vécu ces 5 derniers jours, ces 5 dernières années, la tête sous l'eau, passif, incapable de comprendre et d'agir, de trouver le moindre début de solution pour me sortir de ce guépier. De nouveau, je me dirigeais vers la fenêtre. Mon regard était aimanté par les 20 mètres de vide qui me séparaient du sol. Si je sautais, tout serait fini. Instantanément. Plus de douleur, plus de peur au ventre, plus de malédiction. Mais plus rien d'autre non plus. Dieu sait pourquoi, je repensais à ce que m'avait dit Franck en me quittant ce fameux samedi. Ce mystère m'obsède depuis plus de 30 ans, et je crois que tu es la seule personne capable de le résoudre. J'essuyais mes larmes. C'était pathétique d'essayer de trouver du réconfort dans les paroles de quelqu'un qui m'avait toujours menti, mais je m'y raccrochais tout de même, à défaut d'autre chose. Je retournais vers l'armoire métallique, repris un de mes outils de fortune, en l'occurrence un racloir à plancha, et continuais à m'acharner sur le meuble de rangement, catalysant ma fureur pour la transformer en énergie positive. Au bout d'une demi-heure, un premier verrouillage céda. Je profitais de l'espace ainsi créé pour y enfoncer le fusil en acier qui servait à aiguiser les couteaux. En tirant plusieurs fois sur le manche, je réussis à faire sauter les deux verrous restants. Enfin. Je regardais le contenu de l'armoire avec appréhension, mais je ne fus pas déçu. De grands torchons, des tabliers en tissu, des vestes de cuisinier, des t-shirts. J'enfilai un polo, un uniforme de cuistot, et trouvai même une vieille paire de caterpillars presque à ma taille. Patiemment, je me fabriquai une corde de fortune, nouant entre tous les vêtements. Lorsque mon lien me parut à la fois assez long et assez résistant, je l'attachai solidement au ventail de la fenêtre et, sans regarder en bas, me laissai glisser le long de la paroi de l'immeuble. Je tremblais comme une feuille. J'avais le vertige et la nausée. J'évitais de regarder le sol et fléchis les jambes, calant mes pieds contre la façade. Très lentement, je descendis 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres. Un craquement. La corde qui m'avait paru solide était en train de se déchirer. Lorsqu'elle céda, je tombai de plusieurs mètres et roulai en boule sur le goudron. Plus de peur que de mal. Je me relevai et errai un moment dans la zone d'activité, d'où partaient et arrivaient les camions. Je commençais à faire du stop à l'entrée de la bretelle d'autoroute. Il fallut une 20aine de minutes pour qu'un véhicule s'arrête enfin. Un énorme pick-up conduit par 2 frères Black, dont j'appris qu'ils tenaient un commerce de fruits et légumes dans le Spanish Harlem. Les types étaient sympas. Ils écoutaient du reggae à fond dans leur poste de radio, en tirant joyeusement des bouffées d'une substance indéterminée. Je refusais une taf, mais acceptais volontiers une bouteille d'eau et des nectarines. En arrivant dans le nord de Manhattan, ils firent un crochet par Morningside Heights pour me déposer à l'angle de la 109e et d'Amsterdam Avenue. Il était 7 heures du matin.